Vous écoutez RFI, les 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Et tout de suite, on retrouve Nemo en piste pour le journal. Bonjour Nemo.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. Il n'avait peut-être jamais autant été dans le collimateur des autorités congolaises. Après son passage à Goma vendredi, Joseph Kabila est visé par des poursuites judiciaires, accusé de haute trahison et toujours pointé du doigt pour ses prétendues relations avec l'AFCM-23. Dans un instant, retour sur la dégradation des relations entre l'ancien président et son successeur, Félix Tshisekedi. Plusieurs tentatives de négociation avaient échoué. Celle-ci semble être la bonne. Entre le gouvernement tchadien et le comité d'autodéfense de Miski, les deux camps étaient en conflit depuis 2018 et ont signé hier un accord. Les autorités américaines démentent pour le moment une information dévoilée par le New York Times. Le quotidien assure que Washington revoit sa stratégie de soft power et que la représentation diplomatique américaine en Afrique pourrait largement être revue à la baisse. Une vague d'arrestations au sein de l'armée burkinabé, certains proches de la junte parlent d'une énième tentative de coup d'État. Une saisie record de la garde nationale tunisienne qui annonce avoir démantelé dans le même temps un réseau international de trafiquants de drogue. Et puis le dossier de ce journal au TI Festival qui bat son plein à Bangui où est mise en avant la culture centrafricaine. En République démocratique du Congo, des poursuites judiciaires engagées contre Joseph Kabila. Les biens de l'ancien président vont être saisis et les activités du PPRD, son parti, sont suspendues après son passage à Goma. C'était vendredi. Kinshasa l'accuse de haute trahison pour son implication présumée dans ce que les autorités qualifient d'agression rwandaise dans l'est du pays. Des épisodes récents qui ne risquent pas de réchauffer des relations déjà très tendues entre Joseph Kabila et son successeur, Félix Tshisekedi. Pourtant, Paul Lorgerie, tout avait plutôt bien commencé.
Le 24 janvier 2019, lors de l'investiture de Félix Tshisekedi, Joseph Kabila affichait un large sourire en remettant à son successeur l'écharpe présidentielle qu'il l'avait habillée pendant près de 18 ans. Les deux hommes s'étaient même tombés dans les bras avant de se saluer d'une franche poignée de main. Tout cela, c'était avant que Félix Tshisekedi tourne le dos à celui que l'on surnomme le Reis. En 2021, la majorité parlementaire dont ce dernier bénéficie rejoint en partie la cause du nouveau président. Tombé dans l'opposition, Joseph Kabila se réfugie alors derrière les murs de sa ferme proche de Lubumbashi, ne donnant quasiment plus de signes de vie. Avec une faible représentation à l'Assemblée et devenu critique du pouvoir, il donne ordre aux députés de sa formation politique de ne pas se représenter aux élections de décembre 2023. Enfermé dans son mutisme, les critiques à son égard se multiplient. Kinshasa le soupçonne de soutenir la rébellion du M23. Des accusations qui se sont concrétisées avec la suspension du PPRD et des poursuites judiciaires engagées contre lui. En cause, son probable passage à Goma sous contrôle de l'ennemi qui assure curieusement sa sécurité, développe un communiqué du ministère congolais de l'Intérieur. Si l'on ignore pour le moment où l'ancien président se trouve, son entourage a assuré qu'il s'exprimerait sous peu.
Les explications de Paul Lorgerie. Les autorités tchadiennes et le comité d'autodéfense de Miski ont signé hier dimanche un accord. Il y a 7 ans, en 2018, des tensions avaient éclaté dans l'extrême nord du pays, dans le Tibesti. Les habitants reprochaient au gouvernement et au président de l'époque, Idriss Déby, d'y accaparer les richesses aurifères. S'en était suivi un conflit armé de plusieurs mois avant la signature d'un cessez-le-feu en 2019. Mais depuis, la question des mines n'avait toujours pas été réglée et ce malgré plusieurs tentatives de négociation, notamment depuis l'arrivée au pouvoir de l'actuel président Mahamat Idriss Déby. Victor Moria était à Bardaï, chef-lieu du Tibesti. Il a assisté à la signature.
Outre l'amnistie générale pour tous les membres du comité d'autodéfense de Miski, comme pour ceux des forces tchadiennes de défense et de sécurité qui ont participé aux affrontements en 2019 et 2020, tous les permis d'exploitation minière et toutes les exploitations en cours sont suspendus dans la zone de Miski et ses environs en attendant les conclusions d'études cartographiques à venir dans les 6 prochains mois. Jimé Tchaha, président du comité.
Après plusieurs initiatives de négociation échouées, le comité d'autodéfense de Miski croit aujourd'hui au contenu de l'accord négocié. Il revient maintenant aux deux parties de respecter les engagements pris. Nous ne sommes pas des bandits, notre action était mûrement réfléchie. D'après les termes des accords, nous avons foi en la volonté du gouvernement de dialoguer. Nous allons donc, nous aussi, nous mettre autour de la table.
Les négociations ont été menées avec l'appui de diverses personnalités locales et nationales comme l'ancien ministre Adoum Younousmi et c'est le médiateur de la République, Saleh Kebzabo, qui a signé l'accord pour le gouvernement.
C'est une signature qui nous oblige et c'est donc un engagement pour nous et pour le comité de respecter tous les termes de cet accord et nous en prenons l'engagement. Il faut en effet que cet accord soit appliqué pour que il ramène la confiance au sein des populations.
Victor Moria, de retour de Bardaï, RFI.
C'est une information visible ce matin dans les colonnes du New York Times. Le quotidien américain assure qu'un projet de refonte radicale du département d'État est dans les tuyaux de l'administration Trump. Une réorganisation structurelle qui comprendrait, selon cette même source, une réduction significative de la présence diplomatique de Washington sur le continent, particulièrement en Afrique subsaharienne, et ainsi du soft power américain. À New York, la correspondance de Karine Houten.
Un projet de restructuration du département d'État encore secret, mais dont le New York Times a pu accéder aux détails. Et le plus grand changement consiste en la réorganisation de la présence diplomatique américaine en 4 régions différentes. L'Eurasie, le Moyen-Orient, l'Amérique latine et l'Asie-Pacifique. Exit l'Afrique donc. L'actuel bureau pour l'Afrique serait ainsi supprimé et remplacé par un bureau de l'envoyé spécial pour les affaires africaines qui dépendrait du Conseil national de sécurité interne de la Maison-Blanche et non du département d'État. Le projet indique aussi que toutes les ambassades et tous les consulats non essentiels en Afrique subsaharienne seront fermés. Enfin, toutes les missions restantes seront regroupées sous l'autorité d'un envoyé spécial. Par ailleurs, plusieurs médias américains ont rapporté cette semaine de potentielles coupes drastiques à venir dans le budget du département d'État qui conduirait à la fin du financement de l'ONU. Or, la majeure partie de l'agenda du Conseil de sécurité concerne le continent africain. Karine Houghton, New York, RFI.
L'actualité du continent en bref et ses tensions toujours croissantes au Soudan du Sud entre les forces du président Salva Kiir et du vice-président Riek Machar. Le porte-parole de l'armée a indiqué dimanche que ses forces avaient repris la ville de Nasir dans le nord-est du pays, localité clé dans la crise qui menace toujours l'accord de paix signé en 2018. Les affrontements autour de Nasir dans l'état du Nil supérieur ont contribué à faire échouer l'accord de partage du pouvoir entre les deux rivaux. Le président Salva Kiir accuse le camp adverse d'y avoir fomenté des troubles en collaboration avec l'armée blanche, cette milice de jeunes issus de la communauté ethnique Nuer, à laquelle appartient Riek Machar. Plusieurs officiers des forces armées burkinabés arrêtés la semaine dernière, deux d'entre eux à la tête d'unités militaires ont même été relevés de leur fonction de chef de corps. Pour l'heure, aucune communication officielle n'est parvenue de Ouagadougou, mais des soutiens de la junte contactés par RFI évoquent une nouvelle tentative de renversement du pouvoir, pointant du doigt des militaires en exil. Plus de détails avec Xavier Besson.
Parmi les officiers arrêtés, il y a notamment le magistrat commandant Frédéric Ouedraogo, ancien commandant du bataillon de la justice militaire. D'après nos informations, il était en train d'enquêter sur la mort par balle en octobre 2023 du commandant Ismaël Tougobou, soupçonné d'être en lien avec une tentative de coup d'État. À l'époque, le procureur militaire avait avancé que, je cite, l'interpellation aurait mal tourné. Autre officier arrêté, le capitaine Élisée Tassembédo, surnommé le libérateur de Séba, commandant du groupement des forces de sécurisation du secteur nord à Waïgouya, interpellé alors qu'il était à Ouagadougou pour une réunion à l'état-major, réunion dont le contenu reste ce matin inconnu. Deux hommes qui ont déjà été remplacés, alors que par ailleurs d'autres soldats ont été arrêtés sans que l'on sache exactement combien. Des partisans des militaires au pouvoir que nous avons contactés évoquent une nouvelle tentative de coup d'État et certains évoquent d'anciens officiers radiés de l'armée. Des arrestations en tout cas qui témoignent, disent nos sources, d'un climat tendu au sein des forces armées burkinabées.
Explication Xavier Besson. Autre coup de filet, cette fois en Tunisie, alors que les autorités vantent une intensification de la lutte contre le trafic de stupéfiants. La garde nationale a annoncé ce dimanche une saisie record, ou au moins l'une des plus grosses de son histoire. Plus d'un million de comprimés d'ecstasy interceptés. Et pas que. RFI Tunis, Lilia Blaise.
C'est dans le gouvernorat de Nabeul, à une soixantaine de kilomètres de Tunis, que s'est déroulée cette saisie de grande ampleur. Selon le communiqué de la garde nationale tunisienne, publié le 19 avril, les autorités ont démantelé un réseau international de trafiquants de drogue et saisi plusieurs voitures de luxe qui servaient au trafic. Cette opération record s'est déroulée après plusieurs mois de surveillance. La garde nationale communique sur des saisies presque quotidiennes qui témoignent de l'augmentation du trafic de drogue en Tunisie. Le porte-parole de la direction de la Sûreté nationale, Imed Memacha, avait même annoncé en mars que la Tunisie est devenue un pays de consommation de drogue par excellence, à cause de la banalisation de l'usage de psychotropes chez les jeunes de 16 à 18 ans, dont la consommation de drogue a été multipliée par 5 ces dernières années. La diffusion de stupéfiants en milieu scolaire a également augmenté. La Tunisie n'est pas un pays producteur de drogue et fait l'objet de trafics accrus avec l'Europe pour les drogues dures et de synthèse. Plus de 5000 trafiquants ont été arrêtés dans le pays en 2024 contre 3165 en 2023. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Vers un dialogue politique ouvert entre le pouvoir centrafricain et l'opposition, si l'éventualité avait été évoquée par Faustin Archange Touadéra il y a quelques jours. Ce matin, l'un de ses conseillers spéciaux, Fidel Gwanjika, invité Afrique de RFI, assure que ces discussions sont bel et bien envisageables alors que la présidentielle approche. Elle est fixée au mois de décembre. Des membres du gouvernement ainsi que d'autres institutions républicaines seront chargés d'impulser ce dialogue, dit-il, mais je cite, nous attendons du BRDC, le Bloc Républicain pour la Défense de la Constitution, les points qu'ils souhaiteront aborder pour que le gouvernement se mette au travail. Entretien entre Fidel Gwanjika et Christophe Boisbouvier à retrouver juste après ce journal ou en ligne. Rendez-vous sur www.rfi.fr. La Centrafrique, justement, pour le dossier de ce journal consacré à la 4e édition du TI Festival. Comprenez notre festival en langue locale Sango, un événement créé par l'artiste centrafricaine Idil Mamba et qui vise à promouvoir l'éducation en mettant en avant la culture du pays ainsi que le patrimoine national. Un reportage à Bangui de Rolf Steph Domiale.
Malgré le ciel gris, plusieurs milliers de personnes sont réunies dans la concession du complexe sportif Barthélémy Bouganda, transformé en village du festival. Drapé dans un costume traditionnel, l'attention de Marius Gamando est captivée par la succession des activités telles que la danse, le théâtre, la musique, le défilé de mode ou encore les jeux traditionnels.
Très fier de prendre part à ce festival. C'est une occasion brillante pour les acteurs culturels centrafricains de contribuer et d'éduquer, sensibiliser afin que ce public-là puisse rentrer avec les bases de la culture centrafricaine.
Pour Alex Balu, promoteur culturel, le festival honore la culture centrafricaine à l'échelle mondiale et encourage la jeunesse à renouer avec ses racines.
Pas mal de pays ont leur grand rendez-vous. Au Congo-Brazzaville, il y a le FESPAM, en Côte d'Ivoire, il y a le FEMUA, il y a le MASA. C'est depuis des années que Idil Mamba se bat pour qu'il y ait un grand rendez-vous en Centrafrique qui réunit vraiment toute la grande famille artistique et puis culturelle. Et surtout, il y a un retour aux sources parce qu'il y a des jeux traditionnels qui sont en grand rendez-vous.
Le TI Festival est gratuit et prendra fin le 25 avril prochain. Refestive Domiale, Bangui et RFI.
Et je vous propose justement d'écouter Idil Mamba, l'initiatrice du festival. Elle nous présente ce lieu de brassage culturel.
Le TI Festival se distingue par sa particularité qui est les jeux qu'on a introduits dans ce festival-là. Alors nous avons le Mbaba, je ne sais pas si ça se joue dans d'autres pays, mais je pense que c'est une particularité quand même de la République centrafricaine. Nous avons le Mbaba, le Amte, le Gbagba, les Kisoro. On a une programmation très riche cette année, comme d'habitude d'ailleurs, pour pouvoir rassembler le peuple centrafricain autour de sa culture, de sa tradition. Donc chaque Centrafricain vient avec les jeux de son enfance et partagé avec le public sur place.
Idil Mamba, créatrice du TI Festival en Centrafrique, elle était au micro de notre correspondant à Bangui, Rolf Steve Domiale, qui signe le dossier de ce journal, le TI Festival, qui touche à sa fin le 25 avril. C'est à vous, Andréane Mellard.